Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Rav Lemel avec vous, tous les vendredis après-midi, avec les rabbanim qui font cette émission, on essaye de voir, de comprendre une partie de la paracha, ce paragraphe que nous lisons dans nos communautés chaque semaine. Et alors vous, ce soir, vous avez décidé de nous parler de ce que Rabbi Akiva considère comme le plus important. Ve'a hafta le'ra'echa kamocha, que beaucoup de gens qui nous écoutent connaissent, et tu aimeras ton frère juif comme toi-même. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Il y a eu des livres entiers sur cette question, parce que c'est facile, tu l'aimeras comme toi-même. Qu'est-ce que vous en tirez de cette fameuse sentence?
Alors justement, vous disiez très justement, et je ne suis pas du tout d'accord, que c'est quelque chose très, très facile. Non, au contraire, c'est très très compliqué, parce que d'abord, je ne suis pas d'accord avec votre traduction. Et on va voir tout de suite, parce qu'en vérité, mais c'est classique, on a tous eu l'habitude d'entendre « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Or, si vous regardez, il n'y a pas marqué « ve'ahavta re'acha », il y a marqué « ve'ahavta le re'acha », et tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Et évidemment, ça va être une sacrée différence, on essaie, si vous le voulez bien, de nous arrêter un instant là-dessus. Et puis vous avez précisé aussi, pour ton frère juif, oula, serait-ce à dire que la personne qui n'est pas ne mériterait pas que l'on fasse cela vis-à-vis d'elle. C'est peut-être pas une chose qui est si simple. Alors, on va, si vous voulez bien, tout d'abord reprendre un texte du Tomer de Bora. Le Tomer de Bora, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Moshe Cardorero, un des plus grands kabbalistes au XVIe siècle. Et dans le chapitre 2 du Tomer de Bora, traduction Le panier de Déborah, il va dire quelque chose d'extrêmement important. Et là, il parle de la relation que nous devons avoir à l'humain, à l'humanité. C'est-à-dire, on s'inscrit dans l'humanité. Il va nous dire que, au fond, nous devons faire en telle sorte de ne pas voir l'élément dysfonctionnel qui est présent chez l'autre, qui risquerait de nous empêcher de lui apporter ce dont il a besoin. Vous voyez un petit peu. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour faire en telle sorte de ne pas voir ce qui ne va pas chez l'autre, de ne pas voir chez l'autre ses erreurs et ses erreurs, pour que cette vision ne nous empêche pas par la suite le haïtif de lui faire du bien. Alors évidemment, dans ce genre de situation, le grand classique, la grande question toujours, c'est « oui, mais l'autre, l'horreur, l'autre, le terroriste, t'as raison, celui-là, regardez, c'est bon ». On ne va peut-être pas commencer par le plus compliqué, si ça ne vous dérange pas. Mais dans la réalité de la vie, eh bien, le but, au fond, c'est d'être là et de se dire « mais qu'est-ce que je peux apporter au monde dans lequel je me trouve ?» Et évidemment, si à un moment, je repère ce qui ne va pas, eh bien, ça a un risque de me bloquer un petit peu là-dedans. Et ça, en effet, la Torah nous demande d'être dans cette vigilance. Et au passage, ça rejoint un petit peu cet enseignement de Rabbeinu Asher, Rabbeinu Asher le Roche, un maître aussi du Moyen-Âge, qui disait que d'Arkham, chez la briotte, la nature profonde de l'être, le galot est à ra'ot, de révéler ce qui ne va pas, ou le chassot est à tovot, et de fermer tout ce qui va, c'est-à-dire de recouvrir tout ce qui va. C'est notre nature profonde. Et donc, dit Rabbi Moshe Cordovero, il va falloir faire un effort pour justement préserver le regard positif que l'on a sur les gens, pour continuer à agir vis-à-vis d'eux, comme la Torah nous le demande vis-à-vis de l'humanité. Et à partir de là, évidemment, il va y avoir maintenant cette autre phrase, « Ve'avta lo re'acha kamocha » et tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Au fond, cette traduction, ce mot, le pour l'autre, va, j'ai presque envie de dire, nous faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que j'aime l'autre comme moi-même. Oui, mais ça veut dire quoi aimer? Et là, chacun y va de sa petite définition, de son ressenti et tout. Alors que, on a ici une explication très simple. Aime pour l'autre comme pour toi. Or, qu'est-ce qu'on aime pour nous? Eh bien, d'abord d'avoir une vie dans laquelle on a une place, dans laquelle on a un minimum de reconnaissance, une vie dans laquelle les gens ne cherchent pas à nous faire du mal, une vie dans laquelle les autres ne regardent pas ce qui ne va pas, mais regardent d'abord ce qui va. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a les concepts, une vie dans laquelle je me sens bien. Et maintenant, évidemment, moi, pour me sentir bien, j'ai besoin de telle et telle chose, et je vais devoir donc chercher ce dont l'autre a besoin pour se sentir bien. Mais aime pour l'autre ce que tu veux pour toi. Or, nous voulons tous pour nous une vie qui se conjugue au plus que parfait dans tous les domaines. Donc, il faut que j'ai envie profondément que j'aime pour l'autre. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose que je désire profondément comme je l'aime pour moi. J'aime pour moi que les choses se passent bien. Et donc, à partir de ça, évidemment, je vais tout faire pour que ça se passe. Eh bien, c'est exactement le même principe qu'on va mettre en place chez l'autre. Et au passage, c'est ce que Hillel, l'ancien, va résumer en disant « Man besanelach le chavrech al ta'avid ». Ce qui t'est insupportable ne fait pas l'autre. Alors, on ne va pas prendre des cas concrets. On va dire « Mais qu'est-ce qui nous est insupportable de manière générale ?» Que les gens ne fassent pas attention à nous. Que on puisse à un moment agir mal vis-à-vis de nous. Tout ça, on est d'accord que c'est valable pour tout le monde. Eh bien, ça ne le fait pas l'autre. Et c'est en cela que l'on accomplit cette mitzvah. Alors là, évidemment, la question qui va se poser, mais alors, pourquoi on limite ça au peuple d'Israël? Et il y a ici une idée, au fond, qui est fondamentale. On est bien d'accord que ce que le Tomer de Bora nous a dit, c'est ce qui s'applique à l'humanité entière. Donc déjà, vous imaginez un monde dans lequel on s'empêche de voir ce qui va mal chez l'autre pour continuer à lui donner. Ça veut dire que déjà, on a conscience qu'on est là pour apporter aux gens et pas pour prendre, et qu'on sait très bien qu'on veut préserver la belle image du monde qui est autour de nous pour continuer à agir comme il se faut. Essayons d'imaginer une société qui fonctionne comme ça. Vous imaginez comment elle serait extraordinaire. La Torah nous dit, voilà, peuple d'Israël, Dieu te donne une mission particulière. C'est quoi? C'est d'inscrire quelque chose de supplémentaire, mais qui ne peut exister qu'à l'intérieur de ce que j'appellerais une famille ou une famille élargie. Parce que réfléchir, désirer et agir pour que la vie de l'autre se conjugue au plus que parfait dans tous les domaines, c'est pas simple. On y arrive lorsqu'il y a déjà une relation, lorsqu'il n'y a pas de relation avec l'autre, même si cette autre personne fait partie de l'univers dans lequel nous sommes, c'est quasiment impossible. La Torah nous dit, mais évidemment, je ne vais pas te demander de faire ça pour l'humanité entière, ce n'est pas possible. Mais si toi, peuple juif, tu le fais dans ton système, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que chacun doit le faire dans son système. Vous savez, c'est un petit peu cette fameuse histoire qui m'arrivait un jour de quelqu'un qui me dit, mais comment se dit que dans les grandes collectes communautaires, on collecte que pour la communauté juive? Moi, je dis, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, bien sûr, c'est choquant. Je dis, mais il y a marqué « Nipsach al-Titalem ». Ne t'écarte pas de ta propre chair. Ici, évidemment, nous savons très bien que la communauté juive répond à toutes les sollicitations et combien d'universités, de centres de recherche, dans tout de musées, la communauté juive partout dans le monde a participé. Et si on vient me demander, évidemment, je dois dire oui et je réponds présent. On est en train de me dire, dans la vie, il faut d'abord s'occuper de sa famille. Mais si chacun comprenait ça, qu'il doit d'abord s'occuper de sa famille élargie, des gens de son immeuble, des gens de sa rue, et vous imaginez comment le monde fonctionnerait. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre en place des systèmes pour aider des personnes? Parce que tout simplement, ceux qui sont dans leur proximité, souvent malheureusement, ne les voient pas et ne font pas attention à eux. Et donc, à travers ce texte, eh bien, la Torah est en train de nous dire, sache qu'en vérité, cette dimension ultime de réfléchir à tout ce dont l'autre a besoin pour être heureux et de faire en telle sorte d'être sûr que rien qui pourrait le rendre malheureux puisse être présent, oui, il faut que tu le fasses dans ton peuple. Mais évidemment, l'humanité entière, tu dois lui apporter. Mais cette dimension-là, eh bien, on ne peut la faire réellement qu'avec celles et ceux qui nous sont proches. Mais, et c'est ce que le peuple d'Israël est en train de dire, chaque société doit faire cela de la même manière. Car en effet, c'est ce qu'on appelle être source d'inspiration par rapport à des concepts fondamentaux. Et c'est ça que Rabbi Akiva nous dit, Klal Gadol Batorah. C'est un principe fondateur, un principe fondamental de la Torah, c'est-à-dire que l'état d'esprit du peuple d'Israël doit se retrouver autour de cela. Et donc je répète, la base, c'est qu'on est dans un monde dans lequel il y a l'humain. Et l'humain a été fait à l'image de Dieu. La Mishnah nous le dit clairement dans Pirkei Avot, Raviv Adam Shenivra Moselem, cher est l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. On parle de l'humanité entière vis-à-vis de laquelle on a une responsabilité. Et après, il y a une dimension autre, mais qui n'est pas là pour exclure, mais au contraire, pour être source d'inspiration pour que toutes les sociétés puissent construire et s'inscrire dans la même dynamique.
Alors d'abord, en vous écoutant, je crois, Vangin, que beaucoup comprennent que la phrase bah, j'aime pas ce qu'il fait, mais c'est mon frère. C'est vrai que moi j'ai une sœur, par exemple, ceux qui ont un frère, une sœur, savent ce que c'est. Vraiment, je déteste ça, j'aime pas ce que t'as fait là, mais t'es mon frère. Donc c'est vrai que ça joue beaucoup. Et puis en parlant sous votre contrôle, je me permettrai d'ajouter que il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, il dit plutôt tu ne feras pas à l'autre, comme vous venez nous dire, ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Mais vous savez, Rav Lemel, et ça vous fait sourire, j'en suis sûr, que tout le monde oublie la fin de la phrase, qui est maintenant va et étudie. Ça ne suffit pas. Maintenant va et réfléchis comment tu veux le faire. Rav Lemel, je vous remercie. Et ben je vous souhaite tout simplement Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai. Alors Rav Mordechai, il y a une injonction dans notre paracha, Kedushim Charemot, qui est d'être saint. Alors, nous, les êtres humains, on comprend, enfin moi, par exemple, je comprends ce qui est bien, ce qui est mal, je peux comprendre à la limite ce qui est moral ou pas moral, c'est pas sûr que j'y arrive tout le temps, parce que voilà, il faut des jugements pour ça, mais alors, être saint, franchement, je sais pas comment faire.
Et oui, mon cher Bernard, la paracha Acharemot Kedushim, c'est une paracha qui est extrêmement surprenante, parce qu'elle nous enjoint d'être saints, S-A-I-N-T-S, et effectivement, la sainteté pour nous, elle renvoie à des personnages éminents, à Baba Salé, à Rabbi Shimon Bar Yochai, à des gens, à Moshe Rabbeinu, à des gens qui sont finalement, comme on dirait aujourd'hui, hors sol, des gens qui sont hors de portée. Et en fait, cette paracha nous envoie à quelque chose de très simple, et en fait, pour aller chercher la solution à ce mot-là, à cette énigme, il faut regarder chapitre 19 dans Parashat Kedoshim, les premiers versets 13 à 20 environ, par là-bas, qui parle en fait de l'interdiction de se venger, l'interdiction de garder rancune, l'interdiction de détester son prochain, l'interdiction d'exploiter les gens. Et on se rend compte que finalement, la sainteté ne concerne pas que les rapports avec Hachem, que finalement les rapports d'ascèse avec l'envie de profiter du monde. Ça concerne des choses qui sont beaucoup plus simples, et là on va comprendre cet ordre de la Torah. Quand quelqu'un me fait une crasse, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me venger. Je dois lutter contre cette envie de vengeance. J'ai envie de garder rancune. On me dit d'aimer mon prochain comme moi-même, et je me rends compte que dans de très nombreux cas, c'est extrêmement compliqué. J'ai beaucoup de mal à comprendre que je ne dois pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on fasse. J'ai beaucoup de mal à comprendre, par exemple, dans le couple, que ce que je veux, il faut savoir le donner. Que si je veux du respect, ou si je veux de l'attention, ou si je veux de l'amour, il faut savoir donner du respect, de l'attention et de l'amour. En un mot, commençant, la Torah vient et nous dit, sache une chose, mon cher ami, la sainteté, ça n'est pas seulement la 16, celle de Baba Salé. Ça n'est pas seulement le fait de se retenir, de manger ou de consommer de ce monde à ta guise. C'est beaucoup plus que ça. Et en même temps, beaucoup plus simple que ça. C'est gérer ton univers pulsionnel. Évidemment que lorsque quelqu'un te met en colère, tu as envie de te mettre en colère. Évidemment que lorsque quelqu'un se comporte mal, tu as envie de raconter cela à toute la terre. La Torah vient et te dit, sache une chose, tu dois contrôler tes pulsions. Tes pulsions de colère, tes pulsions de vengeance, tes pulsions de rancune. Tu dois contrôler tout cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu ne contrôles pas tes pulsions, tu crées un univers mental qui est un univers mental débridé. Un univers mental débridé, c'est un univers mental qui s'exprimera dans plein de domaines dans la vie. Et finalement, tu ne contrôleras plus rien. Et finalement, tu finiras par devenir l'ombre de toi-même. Et finalement, tu finiras par devenir méprisable parce que tu finiras par devenir violent. C'est l'avenir des gens pulsionnels. Et en fait, c'est ça la paracha de Kedoshim. La paracha de Kedoshim, elle nous renvoie à cette idée-là. Ce n'est pas parce que j'ai raison dans un conflit que je peux faire ce que je veux. Ce n'est pas parce qu'on m'a fait des pires crasses qu'ils puissent s'imaginer que j'ai tous les droits. Ce n'est pas parce que le Bet Din dans un Din Torah va me donner raison que j'ai le droit d'exercer la sentence du Bet Din en humiliant la personne qui est en face de moi. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le verset qui parle de la Torah, de la réprimande, on ajoute immédiatement derrière, attention, l'otissa à la frette, ne le fait pas blêmir. Vous savez très bien qu'on fait souvent des réprimandes à des gens qui sont vraiment répréhensibles. Et en général, des gens qui se comportent vraiment très mal. Et comment est-ce qu'on fait ces réprimandes ? Violemment. Surtout quand on se sent dans son bon droit, quand on se sent dans toute sa légitimité. En fait, on n'est pas prêt à se retenir. Et la Torah vient et nous dit, si tu ne te retiens pas, tu ne sauras pas gérer tes pulsions. Et tu deviendras à la fin quelqu'un de violent et de méprisable. C'est ça qui est de Shintiu. Soyez séparés. séparé de l'univers pulsionnel. Sachez gérer vos pulsions et vos émotions. Sachez les faire passer sous les fourches codines de vos cognitions, de votre cerveau, de votre intelligence. Et si vous pensez que vous ne savez pas le faire, alors allez voir un érudit, allez voir un psychologue, allez voir un thérapeute, allez voir des gens qui vont vous aider à vous gérer. C'est une aventure qui est une aventure extrêmement difficile à accepter. Combien de gens se plaignent et finalement refusent d'écouter les bons conseils qu'on va leur donner? Combien de gens sont finalement en permanence dans la rancune et dans l'affrontement, au nom toujours de leur légitimité, bien entendu. Tout le monde est légitime à s'affronter, bien entendu. La fin, c'est des drames, des divorces, des cassures familiales et des choses horribles. Donc voilà, c'est ce que nous dit ici la parashat Aharemot Kedoshim, c'est ce qu'elle nous enseigne. Et elle est au cœur du Lévitique, donc au cœur de Vaïkra, qui est lui-même le livre qui est au cœur des cinq livres de la Torah, comme pour nous dire ici qu'il y a ici un élément de comportement et également dans la manière de parler des éléments de langage, qui sont des éléments qui permettront à l'individu de grandir. Deuxième point, et non des moindres, je terminerai sur ça, il y a une discussion entre Nachmanide et Rashi pour savoir ce que c'est finalement cette obligation d'être saint. Alors Rashi dit, partout où tu vois que les gens savent se préserver de la débauche, eh ben, tu vois la sainteté. Ramban, Nachmanide dit non, on n'a pas besoin d'en arriver à la débauche, même dans ce qui est permis, il faut savoir se retenir. En fait, au fond, la discussion entre Ramban, Nachmanide et Rashi, elle est finalement où est-ce qu'on place le départ de la sainteté. Mais finalement, tout le monde est d'accord. La sainteté, c'est finalement le fait de se séparer de... Alors ici, il faut ajouter autre chose. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la sexualité? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce qui touche à la débauche? Rashi explique, et les commentateurs expliquent, Ramban, Nachmanide explique aussi, parce que ce sont finalement des choses que tout un chacun désire ardemment. On retrouve également dans le Mishnah Berurah, dans les commentaires sur la prière de Mincha de l'après-midi à Kippour, où on lit la paracha Harimot et les interdits liés à la sexualité et à la débauche. Tout simplement parce qu'il y a ici quelque chose qui est universellement accepté comme étant le lieu du désir par excellence. Et donc, effectivement, la Torah va venir de dire sur ce lieu universellement accepté comme étant le lieu du désir, sachez ici, vous gérez. Ça, c'est une aventure extraordinaire. Finalement, la Torah a porté au monde un bienfait, comme dit Rambam Maïmonide dans l'introduction des lois sur le mariage. Il dit la Torah a amené au monde le mariage, avec tout le processus du mariage. Comme si on voulait nous dire que finalement, la relation à son épouse, la relation de la femme à l'homme et de l'homme à la femme, est une relation qui se construit, qui s'élabore, et qui finalement est une relation dans laquelle s'expriment des émotions, également des pulsions, mais dans un but, dans un cadre, qui est un cadre qui les sublime, qui les élève, qui permet à l'individu de trouver l'équilibre. Voilà ce qu'on peut dire sur cette paracha. Shabbat shalom à toutes et à tous. Et Bezrat Hashem, Bessorot Tovot, des très très bonnes nouvelles pour tout en Israël.
Rav Mordechai Biton, merci. C'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat shalom.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Alors, Avgué, vous voulez, en relation avec notre paracha, nous parler des relations humaines. Alors là, vaste sujet. C'est peut-être d'ailleurs l'une des choses les plus difficiles. Je ne sais même pas si on y arrive au bout d'un parcours de vie. Enfin, les relations humaines, Avgué.
Alors, effectivement, je voulais commencer mon propos en rappelant les paroles du Rav Steinman, qui a dit... Si quelqu'un doit prier sur quelque chose dans sa vie, sur quoi doit-on prier? On a beaucoup de choses à demander à Hachem, et souvent on oublie de demander ce que le Rav considérait comme étant la priorité des priorités. Prier pour que le jour de notre départ de ce monde, personne ne nous en veuille. Que personne n'ait contre nous le moindre argument, le moindre, on va dire, blessure ou ressentiment, etc. Qu'on sorte de ce monde sans que personne nous en veuille. Voilà, ça c'est une prière. Alors, maintenant, pourquoi j'en parle cette semaine? Parce que dans la paracha de Kedoshim, on a évidemment « Ve'aftal ha'chakamocha »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »« L'otisna et achicha bilvavecha » l'interdiction de détester son prochain dans son cœur, « L'otel erachi » l'interdiction de dire de la médisance, « L'otamad amrecha » non assistance à personne en danger, et j'en passe. Il y a là-bas, en quelques mots, dans le chenil de Kedoshim, un résumé de toutes les problématiques des relations humaines, et la Torah est assez exigeante. La première chose qu'il faut retenir, c'est « Betzedek tishpot amitecha », tu jugeras ton prochain avec justice. Donc normalement on comprend qu'il faut être juste, qu'il faut le juger, mais avec un peu de rigueur. Eh bien, nos sages, on l'explique totalement autrement. Ils disent « Evedan et kol ha'adam lekav zechut » « Juge tout homme favorablement ». C'est-à-dire qu'il faut avoir de la bienveillance lorsqu'on a à juger ou non. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que la Torah nous parle de jugement ? Finalement, ce n'est pas notre rôle de juger, ça c'est les juges qui travaillent et qui doivent juger. Mais nous, les êtres humains, on n'a pas toujours la compréhension du dossier et une clarté dans le dossier. Donc effectivement, il vaut mieux ne pas juger du tout. Mais les hommes sont ainsi faits, ils veulent juger, mais surtout, le Chafetz Chaim nous donne une clé pour comprendre cette mitzvah de juger favorablement. C'est tout simplement que Dieu va nous juger, à nous, après 120 ans, puisqu'on sait tous qu'on a rendez-vous après 120 ans, c'est-à-dire après notre mort devant le trône céleste, pour rendre des comptes sur tout ce que nous avons fait ou pas fait dans ce bas monde, et bien qu'à ce moment-là, il y a plusieurs façons de traiter notre dossier. Il peut y avoir un juge, on va dire, bienveillant, et il peut y avoir un juge extrêmement exigeant et dur, etc. Eh bien, ça dépend de la façon dont nous-mêmes, nous avons jugé les autres. Si nous les avons jugés favorablement, si nous avons été bienveillants, bien, le tribunal céleste, Mida, Kenegan Mida, dit voilà, moi je vais te juger comme toi tu as jugé les autres. Par contre, si on a été extrêmement exigeant envers tout le monde, eh bien Dieu le sera également avec nous. Donc on a tout intérêt à faire attention d'être bienveillant. Mais à part ça, l'hôtel Rachil, cette fameuse interdiction de dire du Lashon Hara, de la médisance, en fait, à aucun moment s'écrit dans la Torah « Al tedaber Lashon Hara ». Ne parle pas de la médisance. Ce n'est pas du tout dit de cette façon. Ce qui est écrit, c'est l'hôtel Rachil. Tu n'iras pas tel. L'explication de Rashi Rachil, c'est tel un espion, Ragil. Il change la lettre Chaf pour la lettre Gimel, et il dit l'hôteler Ragil, n'est pas l'attitude d'un espion. C'est quoi un espion? C'est quelqu'un qui cherche la faille chez son prochain pour après raconter aux autres, voilà, il a ce défaut, il a fait ceci, il n'a pas fait cela. Et donc il est un espion qui est à l'affût de toutes les défauts, les erreurs, les fautes, etc. de son prochain, de manière à avoir de quoi raconter et intéresser, entre guillemets, le public avide d'entendre des paroles négatives, et certainement, malheureusement, pas très avide d'entendre des choses positives. Et donc, il est à l'affût, c'est un espion, il est là en train d'espionner l'autre. Alors qu'en fait, l'attitude doit être totalement différente. « Betzedek tishpot amitecha » juger tout l'autre « Bekam zechut » d'une façon positive, c'est d'avoir de la bienveillance. Au contraire, chercher à expliquer, à justifier, ou même des fois ne pas se prononcer lorsqu'on ne comprend pas vraiment ce que l'autre vit, sa situation véritable, son épreuve, et pourquoi il a dit ça, et dans quelles circonstances il a dit, etc., etc. La même façon qu'avec nos enfants, on ne supporte pas d'entendre des critiques, et on cherche sous toutes les formes des justifications sur leur attitude, en essayant de les excuser, de les comprendre, et de les encourager, nous devrions avoir la même attitude envers les autres. Et c'est à cela qui commence, c'est le début de plusieurs phrases. Si on est capable d'avoir cette attitude de bienveillance, tout le reste ira facilement. Par contre, si on est malveillant, ben on va détester son prochain dans son cœur. C'est quoi dans son cœur? Le Chafetz Chaim l'explique, c'est que quelqu'un peut avoir tout sourire, et en fait dans son cœur, il est extrêmement blessé. Que faut-il faire lorsque quelqu'un nous a blessé? Est-ce qu'il faut se dire « bon, mais c'est pas grave », etc., et faire semblant d'oublier? Évidemment, si on est capable d'effacer totalement tous les ressentiments, ça, on est un tzaddik, on est extraordinaire, on a un grand mérite. Mais si on n'est pas capable de le faire et qu'au fond de nous, on a un ressentiment envers quelqu'un, eh bien, la Torah nous dit « ne le garde pas dans ton cœur ». Mais comment ce qu'il faut faire? Il faut continuer à sourire à son prochain, il ne faut pas lui faire la tête, une sale tête. Il faut être souriant, agréable, mais, absolument mais, je dis important, de lui faire savoir, avec beauté, pas de le faire devant du monde, mais entre quatre yeux ou bien en message, je continuerai à te sourire, je continuerai à être très correct dans nos relations, mais sache que j'ai tel ou tel ressentiment envers toi, tu as dit des mots qui m'ont blessé, j'attends des excuses, mais encore une fois, Je ne voulais pas que ça reste dans mon cœur et que tu ne sois pas au courant de ce ressentiment. Et j'espère que tu sauras t'excuser. En tout cas, je ferai en sorte de te faciliter la tâche. Et sache que j'ai du mal à me dire que j'ai du ressentiment envers un juif. C'est quelque chose qui me fait du mal, qui me fait de la peine. J'ai envie d'être bien avec tous mes coreligionnaires et de les aimer du fond du cœur. Et là, j'ai du mal, je n'arrive pas à passer outre l'outrage que tu m'as imposé, etc., etc. Le faire avec beaucoup, beaucoup de doigté. Et rappelons-nous que c'est de cette façon-là que nous pourrons vers Acha Kamocha. Aimer son prochain comme soi-même, c'est une fausse traduction. Enfin, c'est pas l'explication de nos sages qui nous disent qu'il ne faut pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est beaucoup plus réaliste, parce que demander aux hommes, tous les hommes, d'aimer tous les hommes, bon, c'est pas très réaliste. C'est un vœu pieux, mais pas du tout une réalité. Mais par contre, on peut demander aux hommes de ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse à nous. Et de le faire avec beaucoup, beaucoup d'exigence. De la même façon que quelqu'un qu'on aime, on fait tout pour ne pas le blesser, ne pas lui être désagréable. Ainsi, toute personne en contact, nous devons absolument tout faire pour ne pas le blesser, le gêner, l'importuner, de quelque façon qu'il soit, comme si c'était notre plus grand ami. De ce point de vue-là, ça c'est réaliste, et c'est même un devoir évident de respecter l'autre dans tous les détails, même s'il nous demande des choses, on va dire qu'on n'aurait peut-être pas fait de nous-mêmes, et si ça le dérange à lui, ben nous sommes censés respecter ses envies, ses besoins, ses ressentis. Et donc tout cela, ce sont des règles écrites dans Kedoshim. La paracha de Kedoshim devrait être étudiée tout le temps, toute l'année, parce que tant les problèmes humains sont nombreux et compliqués, tant il y a des tensions, des ressentiments, l'otikon de l'otitor, l'interdiction de se venger, même si quelqu'un m'a fait une vraie crasse, moi du terme, eh bien je n'ai pas le droit de me venger. Mais encore une fois, je dois lui faire savoir que je suis blessé, que je suis peiné. Je dois lui faire avec beaucoup de doigté. Ocher tocher davitecha, réprimande ton combat, ton ami, velotissa la frette. Ne porte pas sur lui une faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas le faire en public. Tu dois faire une remontrance, tu le fais en privé. Fais très attention, par exemple, avec son épouse, même si on veut lui faire une remontrance, le faire devant ses parents à elle ou nos parents à nous, même dans le cercle familial, c'est extrêmement, extrêmement destructeur. Ça lui fait honte. S'il y a des reproches à faire, il faut le faire entre quatre yeux. Tout ça, ce sont des recommandations évidentes, malheureusement, tellement évidentes, mais en même temps, si il y a tant de problèmes entre les hommes et les femmes, les hommes et les femmes, les hommes entre eux, les femmes entre elles. Bref, il y a des problèmes relationnels partout. Et j'appelle la communauté à réfléchir sur le fait que nous sommes, en général, très souvent les gens pratiquants, en train de nous poser 5 000 questions sur la cacheroute de tel ou tel produit, ou à Pessah, de faire enlever le chametz dans des lieux où, franchement, il n'y a pas de risque de chametz. On a été extrêmement mahmir, c'est-à-dire on a été au-delà de la loi dans le respect de Pessah. Pourquoi est-ce que dans les lois entre un homme et son prochain, on est aussi léger et on prend autant de décisions si rapides, sans prendre conseil, sans réfléchir, sans penser aux conséquences? Pourquoi sur ce domaine-là, on est tellement libre et on ne se sent pas du tout tenu par la Torah, alors que c'est un domaine où toutes les fautes sont des fautes minatora, et qu'en général, dans le problème de Chametz à Pessah, très souvent, ce n'est que des interdictions de la Rabbanan. Malheureusement, l'être humain, il est construit de façon à ce qu'instinctivement, il est porté vers les lois qui nous relient avec Dieu, mais cet instinct n'existe que dans la relation, j'appellerais verticale, mais pas dans la relation horizontale entre les hommes. On a l'impression que lorsqu'on est gentil avec les gens, c'est gentil, bon, on est des gentils, mais que ce n'est pas des règles très strictes de la Torah. Et de toutes les manières, comme le disait un grand rabbi chassidique, « Ve'avtal re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». De la même façon que toi-même, tu t'aimes pas l'échec mitzvah, parce que c'est pas une, tu t'aimes toi-même parce que tu t'aimes toi-même, sans que ce soit une mitzvah, tu dois aussi aimer ton prochain, hein, naturellement. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus en faire seulement des mitzvahs, des règles et des obligations. Ça devrait être normal, naturel, évident, que chacun d'entre nous devrait respecter les autres d'une façon extrêmement exigeante, faire des hidourim, c'est-à-dire aller même au-delà du din, pour faire mieux que nécessaire, qu'absolument nécessaire, dans ce domaine, pourquoi est-ce que dans ce domaine on est aussi on transgresse facilement, on se dit que c'est pas grave, et dans d'autres domaines on est particulièrement vigilant. Voilà, c'est un appel que je fais à la communauté de bien étudier le début, et surtout les chenilles de Kedoshim, d'étudier avec les commentateurs et de bien réfléchir si on est à la hauteur face à toutes ces exigences nombreuses de la Torah sur les relations humaines.
Et la réponse étant évidemment bien sûr que non. Donc on va essayer, voilà. Donc on va essayer de s'améliorer déjà. Non, parce que la mitzvah technique, évidemment, c'est facile de juger. On sait, non, je sais que là, je n'ai pas mis trois mètres. D'ailleurs, il y a toujours un moyen de se tromper, mais c'est, avec les hommes, c'est tellement... C'est peut-être le plus beau. Moi, je sais que personnellement, ça fait partie des mitzvot que je préfère, et je sais que je les rate. Mais c'est préférable peut-être de se dire non, c'est beau de faire ça, c'est beau d'inviter telle personne, c'est beau. On peut encore inviter pour ce soir, d'ailleurs. Mais bon, c'est très difficile à faire, bien sûr. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, je lui ai dit, mais comment on peut dire « Nakem et Nakmenu » ? Comment on peut demander à Dieu « Venge-moi » ? Je lui ai dit, c'est incroyable. Alors il m'a répondu, il m'a dit, bah, parce que toi, tu le fais pas. Donc tu dis, oui, tu le fais. Ça veut dire que toi, tu le feras pas. Donc laisse Dieu s'occuper de ça, toi, le fais pas. Rav Guy, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoymei, Hashem lo yine bayis. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarich. Shav shokat shoymei.